Chers amis des cellules, bonjour. Dans l'édito de dimanche dernier, je rappelais, conformément à ce que saint Paul disait dans le chapitre 6 de l'épître aux Éphésiens, que nous menons un combat non pas seulement contre des êtres de sang et de chair, pour reprendre son expression, non pas seulement contre des hommes de mauvaise volonté, mais aussi contre les esprits du mal qui sont dans la région céleste. Saint Paul insistait sur le fait que le combat du chrétien n'est pas que contre des humains, mais aussi contre les anges mauvais qui veulent s'opposer au déploiement du dessein de Dieu, qui veulent s'opposer au salut que Dieu procure à l'humanité. Dans cette perspective du combat et du combat spirituel en particulier, je voudrais vous donner aujourd'hui un autre extrait des lettres de saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, un passage où saint Paul nous donne quelques lumières sur le combat spirituel. Je vous lis ce texte, il s'agit donc des versets 12 à 14 du 10e chapitre de la première lettre aux Corinthiens. Je cite. « Ainsi donc, que celui qui se flatte d'être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui passa la mesure humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Fin de la citation. À travers ces quelques versets, saint Paul nous invite à prendre garde à deux choses, d'une part la présomption et de l'autre la peur. La présomption tout d'abord, c'est ce verset 12, « Ainsi donc que celui qui se flatte d'être debout prenne garde de tomber ». Que veut-il dire par là? Dans les versets qui précèdent, saint Paul faisait mémoire de ses pères du peuple hébreu qui avaient traversé la mer Rouge, qui avaient vu l'alliance du Sinaï, qui avaient été conduits par le Seigneur sous la nuée, et qui pourtant étaient morts au désert. Morts au désert parce qu'ils avaient été infidèles à la loi de Dieu, infidèles à l'alliance. Ils n'étaient pas entrés dans la terre promise parce que leur propre infidélité, leur refus de effectivement mettre en pratique l'alliance de Dieu les avait conduits à leur perte. La présomption était alors de se dire « c'est avec nous que le Seigneur a fait alliance, alors quoi que nous fassions, quoi que nous décidions, le Seigneur nous conduira à bon port. » C'est l'idée que, ayant reçu la marque de Dieu, la marque de l'alliance, mon comportement, finalement, serait indifférent à l'aboutissement de l'alliance, indifférent en ce qui concerne l'entrée dans la terre promise. Le fait que nous bénéficions des grâces de l'alliance ne fait pas de nous des êtres invulnérables. Nous avons reçu le don de Dieu, et c'est une chose que nous, chrétiens, nous disons, nous avons reçu une plénitude du don de Dieu par le baptême et le don de l'Esprit-Saint, mais cela ne fait pas de nous des êtres sur lesquels le mauvais n'aurait plus d'influence. Le tentateur est un stratège. Il est prêt à simuler la défaite. Il est prêt même à nous donner une impression de victoire pour que nous baissions notre garde et que justement dans la présomption, nous commencions à nous mettre en danger. Prenons quelques exemples. C'est la personne qui, ayant fait un vrai chemin de maîtrise de sa sensualité, se dit « Eh bien maintenant, après avoir fait tout ce chemin, je pense que je peux regarder ces quelques images, que je peux regarder ce film, je saurais bien m'arrêter avant d'être emporté. » Et de fait, il lui semble qu'elle a la capacité de détourner le regard, de ne pas laisser son corps brûler par la sensualité. Mais voilà qu'elle a introduit dans son imagination et dans sa mémoire des images qui vont se développer, qui vont occuper la place et qui vont la conduire, après quelque temps, à nouveau à pécher par impureté. C'est la personne qui a réussi à mettre en place une vraie vie de prière, de vrais rendez-vous avec le Seigneur, et qui peut en tirer une satisfaction légitime et véritable, mais qui laisse se dégrader la vigilance qu'elle avait à commencer son temps de prière à l'heure, à arriver à l'heure à son temps de prière. Alors, petit à petit, les retards commencent à grignoter son temps de prière, où elle entre dans la prière sans y être du tout préparée, et finalement, ce temps de prière, ce sanctuaire du cœur à cœur avec Dieu, se retrouve bousculé, réduit, déplacé, voire ignoré. C'est une ruse très efficace du tentateur que de nous laisser croire que nous pouvons fréquenter la tentation, fréquenter les occasions de tentation sans en être affectés. En fait, nous sommes comme un poisson qui a été ferré, mais que le pêcheur laisse encore dans l'eau parce qu'il est encore trop vigoureux. Et vous savez que dans ce cas-là, on va juste un peu fatiguer le poisson jusqu'au moment où, de fait, on peut le sortir de l'eau. Il peut repartir un peu, mais il a été ferré, donc il est déjà dans le pouvoir du pêcheur. Quand saint Paul dit que celui qui se flatte d'être debout prenne garde de tomber, c'est pour que nous demeurions vigilants à éviter les occasions de la tentation, à ne pas nous en approcher, parce que si nous le faisons, nous serons ferrés, comme le poisson imprudent qui mange le ver et l'hameçon qui est sur lequel il était accroché. Notre nature humaine demeure fragile. C'est le Seigneur qui brise les ruses du démon. Ne donnons pas l'occasion à ce dernier de nous nuire en nous approchant de lui. Il est plus simple de fuir les occasions de tentation plutôt que d'en sortir quand on s'en est approché. Ayant regardé cette mise en garde contre la présomption, regardons désormais la mise en garde contre la peur. Aucune tentation ne vous est survenue qui passât la mesure humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il y a là quelque chose de très important, de nous souvenir que Dieu est vraiment le maître de l'histoire, et donc que les épreuves qui peuvent survenir dans notre vie sont quand même contrôlées par la main de Dieu. Comprenons bien que ce n'est pas Dieu qui s'amuserait à nous nuire pour voir comment nous réagirions. Notre Dieu n'est pas un Dieu sadique qui créerait pour nous l'épreuve afin de se distraire. Il n'est pas un organisateur de combats de gladiateurs qui à la fois les met en danger et leur donne des moyens de se défendre. Quand Paul dit que, avec la tentation, Dieu nous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter, cela veut dire que Dieu met une limite au mal qui peut s'abattre sur nous, et qu'il nous prodigue aussi des moyens pour porter, pour supporter la tribulation qui s'abat sur nos têtes. Précisons quand même une chose sur ce qu'on appelle une mise à l'épreuve. Il y a deux types de mise à l'épreuve. Il y a un premier type de mise à l'épreuve qui est une mise à l'épreuve semblable à celle de l'entraînement du sportif. Il met à l'épreuve son corps pour en déployer la capacité. Et de fait, c'est une épreuve de courir pour développer son souffle. Et de fait, les exercices d'assouplissement sont douloureux pour étirer, pour gagner en souplesse de nos muscles. Cette mise à l'épreuve-là ne contient aucune malice et Dieu peut en être à la source. Mais il y a une deuxième mise à l'épreuve, une mise à l'épreuve qui, elle, a pour objectif de nous faire tomber. Il y a une mise à l'épreuve qui veut nuire à notre vie, qui veut nuire à notre foi, qui veut nuire à notre espérance et à notre capacité d'aimer. Et cette mise à l'épreuve-là, cette tentation au sens propre, est l'œuvre des esprits mauvais. Dieu ne veut faire tomber personne. Mais alors, pourquoi Dieu tolère-t-il que nous soyons mis à l'épreuve de façon malicieuse par les esprits des ténèbres, quand bien même il y met une limite? Pourquoi tolère-t-il que nous subissions de la part des esprits mauvais cette épreuve? Premièrement, parce que Dieu respecte la liberté des créatures à qui il a donné la vie. Le don de la liberté avait été fait pour que nous ayons la possibilité d'entrer véritablement dans l'alliance de l'amour et de l'amour gratuit. Pas de liberté véritable, pas de participation à l'alliance d'amour de Dieu, pas de participation à sa vie divine, à sa communion d'amour. Donc Dieu se doit de prendre le risque de la liberté, liberté faite pour dire oui, mais liberté qui peut dire non. Empêcher que la liberté puisse jamais dire non, c'est en fait supprimer la possibilité même de la liberté. Alors, si l'on comprend l'importance de la réalité de la liberté et que la liberté perdure, cela pose quand même une question. On pourrait se dire, mais à quoi bon la liberté si c'est pour que tout le monde perd ? Inviter quelqu'un à un jeu où tout le monde perd, c'est quand même pas très intéressant. À quoi bon ce don de la liberté si c'est pour que tous nous en fassions un mauvais usage et donc que tous nous soyons perdus ? C'est là où nous arrivons au deuxième point qui explique pourquoi Dieu tolère cette activité des esprits mauvais qui nous met à l'épreuve. Ce combat, cette épreuve, devient l'occasion d'une révélation d'un amour plus profond. Ce combat, cette épreuve, devient l'exigence et l'apparition d'un amour plus profond. Cela commence avec le Christ mis en croix. Nous avions déjà entendu dans toute l'Alliance que Dieu aimait son peuple. Nous voyons par le Christ mis en croix que Dieu nous aime jusqu'à donner sa vie pour nous. Nous avons l'attestation, l'affirmation d'un amour qui a vraiment tout donné, tout livré pour nous, pour notre vie, pour notre salut. Le poids de la malice des hommes et de la haine du diable qui s'est abattu sur Jésus a finalement provoqué une révélation et un fruit de l'amour inédit, inouï. Ainsi, les manœuvres des esprits mauvais finissent par répandre sur l'univers plus d'amour, plus de charité, plus de révélation de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Leurs manœuvres finissent par provoquer dans le monde plus de foi, plus d'espérance, une charité plus grande, plus fondée en Dieu. Et cela se fait évidemment à leur corps défendant. Ils ne cherchent pas à faire grandir la gloire de Dieu, mais leur manœuvre à s'opposer à la gloire de Dieu finira pourtant par la révéler de façon plus éclatante encore. Je voudrais terminer en revenant sur un point de la citation de saint Paul lorsqu'il dit « Avec la tentation, Dieu vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. » Nous commettons souvent l'erreur de penser qu'il nous donnera à nous, tout seul, directement, le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Or, si le Seigneur peut assurément directement nous donner ses moyens, à travers notre prière personnelle ou à travers une intervention directe sur nous, nous oublions cependant que la plus grande partie de la grâce nous vient de l'extérieur de nous-mêmes, nous vient de l'Église. Il nous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter dans la mesure où nous allons chercher et nous ouvrir à cette grâce qu'il nous prodigue à travers son Église. Cette grâce passe donc par exemple par l'intercession, par le fait de vous retrouver en cellule pour partager, prier ensemble, par l'ouverture et la fidélité à la prière pour votre oikos. Ces moyens qu'il nous donne, c'est aussi à travers la tradition de l'Église, à travers la vie des saints. Il est toujours bon lorsque notre foi nous semble un peu éteinte de lire la vie d'un saint. De lire la vie d'un saint, parce que leur vie ranime en nous le désir d'être saint. Et n'ayons pas peur que quand nous commençons à prendre le livre, nous dites « Oh là là, est-ce que ça va être bien? Est-ce que je vais pas m'ennuyer ?» Ça, c'est une tentation, c'est une hésitation courante. Mais pourtant, c'est vraiment un lieu où lire leur amour pour Dieu réveille l'amour pour Dieu qui est en nous, pour lequel nous sommes faits. Ainsi, en ce temps de confinement, gardons-nous de nous replier, de nous recroqueviller sur nous-mêmes. Allons chercher ces moyens d'en sortir, cette force de la supporter que le Seigneur nous donne à travers son peuple, à travers l'Église, en partageant des intentions de prière, en allant recevoir le sacrement de la réconciliation aux accueils de prêtres, en allant prendre des nouvelles de notre oïkos. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Allons puiser la force qu'il nous donne pour supporter l'épreuve par les différents moyens que son peuple nous propose. Je vous souhaite de bons échanges.